إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه، واعلموا أن الإسلام قد عني بأمر الصلاة وشدد كل التشديد في طلبها وقضى بالوجوب في أدائها في بيوت الله مع الجماعة حيث ينادى بهم، وحذر أعظم التحذير من تركها أو التهاون بها، وجعلها عمود الدين ومفتاح الجنة وخير الأعمال وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأمر بها جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومدح الله بها إسماعيل عليه السلام بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأمر بها كريمه موسى عليه السلام في ساعات الوحي الأولى بقوله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنطق بها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأمر بها خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وبها وصف الله سبحانه عباده المؤمنين في كثير من الآيات. قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. ومن أجل بيان أهميتها أكد لنا سبحانه وتعالى المحافظة عليها في الحضر والسفر والأمن والخوف والسلم والحرب وفي الصحة والمرض، مشاة أو راكبين، حتى بغير ركوع ولا سجود، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى إنه جل شأنه لم يشترط لها استقبال القبلة في حال الضرورة، فقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. عباد الله، من أجل هذه المكانة العظيمة السامية الرفيعة العالية، من أجل هذه المكانة العظيمة للصلاة، ثاني أركان الإسلام، أنذر الله جل وعلا بالويل والهلاك والضياع كل من يسهو عنها فيضيع وقتها. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ودمغ بالذم واستحقاق الغي كل من أضاعها، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد بين لنا أن الصلاة هي الدليل الأول الساطع على التزام عقد الإيمان، وأنها الشعار الفاصل بين الكفر والإسلام. فقال كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وفي رواية عند الترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي مسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. إنها يا عباد الله لمزايا حميدة وصفات عظيمة وفوز كبير. وقد قال العلماء رحمهم الله في توجيه هذا الحديث النبوي الشريف: من شغله ماله عن الصلاة فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف، عافانا الله من ذلك. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الهدف الأساس من كل العبادات هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى وأداء حقه وشكر نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، وأن الله جل وعلا غني عن عباده كل الغنى، وأن ما يتعبدنا به فإنما هو لصلاح أنفسنا ويعود علينا بالخير في حياتنا الروحية والمادية الفردية والجماعية والدنيوية والأخروية، غير أن الإنسان القاصر المحدود قد يخفى عليه كثير من حكمة الله جل وعلا. ولكن يبقى شعار المؤمن دوما: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. عباد الله، إن من الحكم من الصلاة عباد الله، إن الحكمة الأولى من الصلاة هي تذكير العبد بخالقه الذي أوجده من العدم وأبرزه إلى حيز الوجود المشاهد. فقال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والحكمة الثانية أن الله جل وعلا كرر الصلاة 5 مرات في اليوم لتكون للمسلم زادا روحيا يتطهر بها من غفلات قلبه وأذران خطاياه. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فهل يبقى على بدنه من درنه شيء؟ قالوا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ومن ثمار هذه الفريضة العظيمة أنها تمد المؤمن بقوة كبيرة وهمة عظيمة تقويه على فعل الخير وترك الشر ومجانبة الفحشاء والمنكر. فقال تعالى: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن حكمة الصلاة أيضا عباد الله أنها تمد المؤمن بقوة روحية نفسية تعينه على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا وما ينتابه من كدر ومكابدة ونصب ووصب. فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. ومن يتصبر يصبره الله سبحانه. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور. وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليه، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرتبطة بالصلاة، وكانت أحب الأشياء إليه، كما في سنن النسائي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يجد فيها راحته، كما في سنن أبي داود عن سالم بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. وأخرج أحمد وأبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومعنى حزبه أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل حضرا ولا سفرا، وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة إلى أن قال رحمه الله: فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، وما زاد على ذلك فغير راتب. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. أي نعم عباد الله، كثيرا ما نقرع أبواب هذه الحياة الدنيا ونظن أنه لعلها تفتح لنا، فمنا قارع لباب المال والتجارة، ومنا قارع لباب الجاه والرياسة، ومنا قارع لغيرها من الأبواب في هذه الأرض. لكن هل فكرنا في قرع أبواب السماء؟ إن قرع أبواب الخلق لن يجدي لك نفعا، ولو فعلوا ما فعلوا كائنا منهم من كان، ما لم يكن لك شأن مع أبواب السماء فالزم هذا الباب تنل بذلك غاية العزة والرفعة. وإن خذلك الأقربون وأقفلوا في وجهك الأبواب، فالله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم. يقول ابن القيم رحمه الله: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، فاقرع أبواب السماء يا عبد الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون عليه، كما عرف الله كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، sachez que l'islam a apporté une importance considérable à l'égard de la prière, et qu'il a énormément incité et ordonné aux gens de l'accomplir, et il a jugé son accomplissement dans les mosquées avec les musulmans comme étant une obligation qui incombait aux musulmans, et il a mis en garde de la façon la plus conséquente contre ceux qui délaissent la prière ou qui sont négligents quant à son application. L'islam a fait de la prière son pilier porteur principal après l'attestation de foi. Il a fait de la prière la clé qui ouvre la porte du paradis. Il a fait de la prière la meilleure des actions Et il a fait de la prière la première chose sur laquelle nous serons interrogés et jugés le jour du jugement. Allah Azza wa Jal a ordonné à tous les prophètes et aux messagers et à ceux qui les ont suivis d'accomplir cette prière. Ibrahim alayhi salam a dit, ô mon Seigneur, fais que moi ainsi que ma descendance faisons partie de ceux qui accomplissent la prière. Ô notre Seigneur, accepte notre invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de Ismaïl alayhi salam en disant, et certes, il a ordonné aux siens d'accomplir la prière et d'acquitter le monde. Et il était satisfait, il était agréé auprès de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son interlocuteur Moussa alayhi salam, dans les premiers moments de la révélation, d'accomplir la prière. Il a dit subhanahu wa ta'ala, et certes je t'ai choisi, alors écoute ce qui va t'être révélé. Certes, je suis Allah, nulle divinité dit d'être adoré en dehors de moi. Alors adore-moi et accomplis la prière pour mon rappel. Et Allah ta'ala a fait parler Isa alayhi salam dans le verso. Il lui a fait prononcer ces mots. Et il m'a ordonné d'accomplir la prière et le monde tant que je suis vivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la prière et lui a dit, récite ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur et accomplis la prière. Car certes, la prière interdit la personne qui l'accomplit d'approcher la turpitude et le mal. Et le rappel d'Allah est encore plus grand. Et Allah sait très bien ce que vous faites. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs pieux dans de nombreux versets comme quoi ils étaient assidus à l'accomplissement de la prière. Il a dit subhanahu wa ta'ala, والذين هم على صلاتهم صلواتهم يحافظون, et ceux qui sont réguliers dans leur accomplissement, l'accomplissement de leur prière, que ce soit dans le temps ou que ce soit dans la façon de l'accomplir. Et il a dit aussi subhanahu wa ta'ala, والذين هم على صلاتهم دائمون, ceux qui la font tout le temps. Tout le temps, ce n'est pas seulement dans le fait de la faire toute sa vie, mais tout le temps le plus possible. Et Allah Azza wa Jal, pour nous montrer à quel point la prière était importante, a appuyer cela en rendant la prière obligatoire dans tous les états possibles et imaginables, que ce soit dans sa résidence ou en voyage, que ce soit dans un cas de paix ou de peur, que ce soit même pendant la bataille ou la guerre, ou même qu'on soit en bonne santé ou malade, qu'on soit à pied ou qu'on soit sur nos montures, même si on est incapable de faire l'inclinaison ou la prosternation, quelle que soit la capacité dans laquelle nous sommes, que nous avons, ou l'état dans lequel nous sommes, on se doit d'accomplir la prière. Allah dans le Coran dit, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, si vous avez peur alors que ce soit à pied, sur vos pieds ou sur vos montures. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les cas particuliers, dans lesquels on ne sait pas où se trouve la qibla pour faire la prière, alors Allah nous dit, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, et à Allah appartient l'Orient et l'Occident. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, où que vous soyez, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, se trouvera le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça bien sûr c'est dans le cas de la nécessité, lorsqu'on ne sait pas où se trouve la qibla. Si on le sait, nous c'est obligatoire de nous diriger vers elle. Mes frères, lorsque l'on voit cela, cette énorme vertu qui est celle de la prière, et ce très haut degré qui est celui de la prière, ce deuxième pilier de l'islam, on comprend pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a averti et mis en garde ceux qui sont négligents quant à son application, ceux qui la laissent passer sans y apporter de l'importance. Il les a mis en garde, il les a avertis du malheur et contre le malheur, contre la perdition et contre l'égarement. Allah dans le Coran dit, malheur à ceux qui prient, ceux qui sont négligents dans l'accomplissement de leur prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait un reproche ultime et a dit que méritait la perdition celui qui a gâché la prière. Allah dit dans le Coran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, vint après eux une génération, أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, qui gâchèrent la prière, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, et qui suivirent leur passion, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا, certes bientôt ils rencontreront Al-Ghayy. Et certains savants ont dit que le Ghayy était le monde d'un fleuve en enfer, très profond et très nauséabond. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a lui aussi montré à quel point la prière était importante. et qu'elle était la preuve irréfutable de la présence de la foi dans le cœur du croyant, et qu'elle était aussi le symbole catégorique qu'il y avait entre la mécréance et la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a entre l'homme et l'association et la mécréance, le délaissement de la prière. Et dans une version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la différence qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. Et le prophète a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, un jour qu'il évoquait la prière à ses compagnons radiallahu anhum, il leur a dit, celui qui est assidu quant à l'accomplissement de la prière, elle sera pour lui une lumière et une preuve et un échappatoire au jour du jugement. Quant à celui qui ne l'accomplit pas régulièrement, quant à celui qui n'est pas assidu quant à son accomplissement, elle ne sera ni pour lui une lumière, ni une preuve, ni un échappatoire, et il sera le jour du jugement avec Qarun, le ministre de Pharaon. Pharaon, Qarun, un homme riche de la tribu de Moussa alayhi salam. Pharaon qui est connu, Haman son ministre, et Ubay ibn Khalaf qui était un commerçant mécois du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, les savants ont expliqué ce hadith en disant que celui qui a été préoccupé quant à l'accomplissement de la prière à cause de sa fortune, il sera avec Qarun. Quant à celui qui a été préoccupé à cause de son pouvoir, il sera avec Pharaon. Quant à celui qui a été préoccupé à cause de sa fonction et de son rang, il sera avec Haman. Et quant à celui qui a été préoccupé à cause de son commerce, il sera avec Ubay ibn Khalaf. Mes frères, sachez que le but principal de chacune des adorations est en premier lieu l'exécution de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le fait de remercier Allah jalla wa ala pour les innombrables bienfaits qu'il nous donne tout le temps. Et en sachant qu'Allah jalla wa ala est à l'abri du besoin de ses serviteurs, il n'a absolument pas besoin d'eux ni de leur adoration. Et le fait qu'il nous ordonne de l'adorer de cette façon, c'est pour notre bien à nous, et que c'est que nous qui profitons réellement du bien de ces choses-là dans notre vie spirituelle ou matérielle, pour notre propre personne ou notre société, que ce soit pour ce monde d'ici-bas ou de l'au-delà. Sauf que l'être humain, à cause de sa réflexion limitée, est incapable de savoir réellement quelles sont toutes les sagesses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obligation de cette action-là. Mais le croyant garde toujours comme symbole « Sami'na wa ata'na » « Nous avons entendu et nous obéissons »« Ghufranaka rabbana » « Ô notre Seigneur, ton pardon » »« Wa ilayka al-masir » »« Et à toi se fera le retour » Sachez mes frères que parmi les sagesses de la prière est qu'elle rappelle au serviteur son créateur, celui qui l'a créé du néant, celui qui l'a fait apparaître dans le monde existant. La prière sert à évoquer son Seigneur, comme Allah a dit à Moussa alayhi salam, wa aqimis salata li dhikri. Autre chose, autre sagesse, j'entends des voix des gens qui parlent. Quant à la seconde sagesse, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait répété la prière dans son accomplissement, la rendue obligatoire plusieurs fois dans la journée, 5 fois, afin qu'elle soit pour le musulman un bagage spirituel par lequel il se purifiera des insouciances de son cœur, ainsi que de la saleté de ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple concernant cela lorsqu'il dit à ses compagnons radiallahu anhum, que pensez-vous si un fleuve coulait à la porte de l'un d'entre vous et qu'il s'y laverait 5 fois par jour, est-ce qu'il resterait sur son corps une quelconque salissure? Ils répondirent non. Alors il leur dit alayhi salatu wassalam, il en est ainsi avec la prière. Les 5 prières, Allah efface par elles les péchés. Et sachez que parmi les bénéfices de cette immense adoration, c'est qu'elle donne aux croyants une force et une envie immense qui lui permet d'accomplir le bien et de délaisser le mal et de s'éloigner de ce qui est une turpitude ou une abomination. Comme on l'a dit précédemment dans le verset, elle accomplit la prière, car certes, la prière éloigne le croyant, tanha anil fahsha'i wal munkar, interdit la personne qui l'accomplit de faire la turpitude et le mal. Et parmi aussi les sagesses de la prière est le fait qu'elle donne aux croyants une force spirituelle qui lui permet d'affronter les difficultés de ce bas monde et les catastrophes qui le touchent et tout ce qu'il rencontre comme comme malheur, comme fatigue ou comme difficulté. Allah dans le Coran a dit, et cherchez assistance dans la patience et la prière. Et certes, la prière est une énorme chose, sauf pour celui qui se recueille. Cheikh Sa'di rahimahullah dit dans l'explication de ce verset, Allah a ordonné aux croyants de chercher assistance dans toutes leurs affaires, dans la patience de toutes ces différentes catégories. Que ce soit la patience ou l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'il accomplisse, ou la patience à l'encontre de la désobéissance d'Allah ta'ala jusqu'à ce qu'il la délaisse, ou la patience sur les décrets divins douloureux afin de ne pas manifester de la colère lorsqu'il est touché par eux. Et avec la patience sur ce qu'Allah lui a ordonné, il trouve une aide immense dans toutes les affaires qu'il rencontre. Et celui qui patiente, Allah lui accorde la patience. Il en a de même pour la prière, qui est la balance de la foi et qui empêche le croyant de faire le mal et la turpitude. Il cherche le refuge en elle, dans chacune de ses actions. Et certes, la prière est difficile, sauf pour ceux qui sont pleins de recueillement. Pour eux, elle est légère. Pour eux, elle est simple. Parce que le recueillement, la crainte d'Allah, l'espoir de ce qu'il a auprès de lui comme récompense pour nous, impose aux croyants de l'accomplir en ayant la poitrine épanouie, sans qu'il n'ait besoin de quelque chose pour le pousser ou le forcer à faire cela, car il attend la récompense de son Seigneur et craint son châtiment. Contrairement à celui qui n'est pas comme cela, et que lui, il ne trouve rien qui le pousse à accomplir la prière, et lorsqu'il l'accomplit, elle fait partie pour lui des choses les plus lourdes sur ses épaules. Mes frères, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie entière était liée à la prière, et elle faisait partie des choses qu'il aimait le plus, alayhi salatu wa sallam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, on m'a fait aimer les femmes, ainsi que le parfum, et la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Et elle faisait aussi partie des choses qui donnaient la quiétude et l'apaisement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam à Bilal, Ya Bilal, fais l'iqama, appelle à la prière, apaise-nous par elle, soulage-nous par elle. Et le prophète a dit alayhi salatu, et Hudhayfa ibn Yaman radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était touché par une situation difficile, ou bien qu'il était touché par un souci, il se précipitait vers la prière. Il ne pensait pas aux créatures ou bien à quelconque cause de ce ballonge qui puisse lui enlever ce souci, mais le premier réflexe qu'il avait était l'accomplissement de la prière. Ibn Qayyim rahimahullah dit dans Zad al-Ma'ad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé la prière de la nuit, qu'il était chez lui ou bien en voyage. Et si jamais un jour il n'a pas pu se réveiller, si jamais une nuit il n'a pas pu se réveiller à cause d'une douleur ou autre, eh bien, dans la journée, il priait 12 raka'a en compensation de ces 11 raka'a qu'il n'a pas fait durant la nuit. Jusqu'à ce qu'il a dit, Ibn Qayyim rahimahullah, si on rajoute cela, yani les 11 raka'a qu'il faisait la nuit, plus les 12 raka'a qu'il faisait le jour, plus les prières obligatoires, on arrive donc à une quarantaine de raka'a qu'il faisait quotidiennement, tous les jours de sa vie, qu'il n'a jamais délaissé. Les 5 prières obligatoires dans lesquelles on compte, 17 raka'a. Donc les deux de Sokh, 3 fois 4 raka'at d'Ohr al-Asr wal-Isha, plus celle de Maghreb, ça fait 17, auxquelles on rajoute les 12 de Rawatib, les prières surérogatoires qui accompagnent les prières obligatoires, ça fait 29, auxquelles on rajoute les 11 de la nuit, ça fait 40. 40 raka'at que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quotidiennement toute sa vie et qu'il n'a jamais délaissé, jamais, le jour et la nuit, qu'il soit na'am. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam donc faisait d'autres prières qui ne comptent pas de cela, car elles sont justifiées et légiférées par des causes particulières. Il incombe donc aux croyants, et il est donc fortement recommandé pour le musulman, à son tour lui aussi, d'être quotidien et constant dans l'accomplissement de toutes ses prières, et ce jusqu'à la mort. Car sachez que la réponse du Seigneur est extrêmement rapide, et l'ouverture de la porte est extrêmement rapide pour celui qui frappe à celle-ci chaque jour et nuit 40 fois. Va frapper la porte de quelqu'un de qui tu attends quelque chose 40 fois tous les jours et toutes les nuits, et tu verras que tôt ou tard il t'ouvrira. Mais lui, il t'ouvrira avec une tête de quelqu'un qui est en colère contre toi car tu l'as dérangé. Contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui t'accueillera avec cette promesse qu'il t'a faite de répondre à ton invocation. Et nous, regardez notre état, combien de fois on frappe aux différentes portes qu'on trouve ici-bas. et en pensant que peut-être elles vont s'ouvrir à nous. Il y a parmi nous celui qui frappe à la porte de l'argent ou bien du commerce. Il y a parmi nous celui qui frappe à la porte du pouvoir et de la royauté. Et parmi nous d'autres qui frappent aux portes d'autres et d'autres qui frappent à d'autres portes de ce bas monde. Et mais est-ce qu'on a pensé une seule fois à frapper aux portes du ciel? Frapper aux portes des créatures ne t'apportera aucun profit. Et même s'ils font ce qu'ils font, quel que soit leur rang et leur degré, tant que tu n'as pas un lien particulier avec le Seigneur de l'univers, tant que tu n'as pas habitué ton poignet à frapper à la porte du ciel, rien ni personne ne pourra t'apporter quelque chose. Alors, sois assidu et accroche-toi à cette porte, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et frappe cette porte-là, et tu verras, tu obtiendras, et tu atteindras ton objectif de la meilleure des façons, même si les gens les plus proches auprès de toi t'abandonnent, et même si tout le monde claque la porte à ton visage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ibn Jawzi rahimahullah a dit, as-tu vu cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille, qui s'accroche à son père en lui demandant un bonbon ou bien un fruit qui lui a fait plaisir, et le père qui lui dit non? Alors l'enfant il se met à pleurer, à insister, et l'enfant, le père il continue à dire non, mais l'enfant aussi il est têtu, alors il continue à insister, il pleure, il pleure, il pleure, jusqu'à ce que son père il lâche et il lui donne ce qu'il lui demande. Eh bien, fais pareil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demande et insiste et pleure et accroche-toi et frappe à sa porte et Allah tabaraka wa ta'ala te donnera ce que tu demandes. Ibn Qayyim rahimahullah a dit, celui qui est régulier dans le fait de frapper à cette porte, bientôt ou tard, on lui ouvrira cette porte-là. Alors frappe aux portes du ciel. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala. بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصبرنا عند البلاء وأن يجعلنا من الشاكرين عند النعماء. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر وممن إذا أعطي شكر وممن إذا ابتلي صبر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بك واجعل نفوسنا مطمئنة لأمرك. اللهم اجعل خشوعنا في صلاتنا ولا في غيرها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك تقواك. اللهم أذقنا برد عفوك. اللهم أذقنا برد عفوك وأسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.